Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des Conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral.
Le lièvre et la renarde. Il était une fois, là-haut dans le Grand Nord, un lièvre gris à la queue blanche et une renarde au poil roux. Quand leur histoire vient au monde, l'hiver et ses vents dévorent les dernières herbes. « Il est urgent, se dit le lièvre, il grelotte de froid derrière un rocher, que je me construise un abri. Feuilles mortes, écorces, bâtons, il se bâtit une maison. La renarde passe par là. Elle lui demande « Hé, que fais-tu, petit poilu ?»«
Une cabane. »
« Oh, elle est minable. Regarde là-bas, mon palais. » Murailles taillées dans la glace, voûtes blanches, cristal partout. On appelle ça un igloo. C'est autre chose, excuse-moi, que ta masure de moujik. » Et elle s'en va, fière, la queue haute. Le printemps vient, ciel bleu, dégèle, l'igloo s'égoutte, il pleut dedans, le plafond fatigue, plouf, il s'effondre. La renarde court chez le lièvre à travers le pré renaissant. Elle frappe à la porte. Personne. Elle entre, s'enferme au verrou, se pelotonne près du poêle, soupire un grand coup et s'endort. Le lièvre revient. Porte close. Par une fente, il jette un œil. « Ouvre, renarde, je sommeille !»«
Moi aussi, laisse-moi tranquille !»«
Renarde, eh oh, tu es chez moi ?»«
Tu m'agaces, petit poilu, tu m'irrites, tu m'exaspères !»«
Ah, ne me pousse pas à bout, sinon, foi de renarde rousse, je fais un malheur sibérien !»«
Un malheur sibérien ? Mais c'est épouvantable !» se dit le lièvre. Il en gémit. Regard perdu, geste d'impuissance, il s'en va, l'échine courbée. Il rencontre un loup.
« Hé, salut, lièvre ! Quelle tristesse dans ton œil ! Mon pauvre ami, tu es en deuil ?
Pire, grand loup, je suis en ruine. La renarde, que Dieu la mange, s'est enfermée dans ma maison.
Où dormir ? Sur le paillasson ? Je n'ai plus rien, ni feu, ni toit.
Qu'elle s'en gêne, c'est un scandale. Suis-moi, frérot, et tu vas voir ce que je fais, moi, des nuisibles qui se chauffent indûment le poil au poil des honnêtes gens.
L'enjambée ferme, ils s'en reviennent.
Le loup, à grosse voix.
Renarde, cette maison n'est pas à toi. Je t'ordonne donc de sortir. Les pattes en l'air, pas d'entourloupe, je te préviens, tu es cerné.
Et l'autre, dedans.
Non, mais je rêve! Dis donc, bouffon, tu veux mourir?
Créneau, je compte jusqu'à 10, après quoi j'ouvre cette porte, et par le pif de Saint-Morbiol, je fais un malheur sibérien.
Oula, elle est vraiment fâchée, dit le loup. L'œil déjà parti et la voix soudain enrouée.
Bon, eh bien, lièvre, bonne chance. Je suis en retard, faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous important.
Et il s'enfuit, la queue sous le ventre. Les yeux du lièvre abandonné s'emplissent de larmes, il renifle. Passe un ours brun.
Et pourquoi pleures-tu, pauvre lapin? Qu'est-ce qu'on t'a fait ?
Lièvre, répond l'interpellé, je ne suis pas lapin, mais lièvre.
Qu'est-ce qu'on m'a fait ? Tu as devant toi la victime du plus odieux des attentats.
Il compte en détail. L'ours écoute. Il s'insurge.
Mais sacrebleu, c'est une atteinte aux droits des bêtes. Intolérable.
Attends un peu, elle va m'entendre, ta renarde.
L'ours se plante droit sur le seuil. Il cherche ses mots. Il les trouve. Nous allons nous plaindre en haut lieu, alerter les autorités, faire intervenir, s'il le faut, l'armée des marchands de fourrures. À ta place, j'aurais très peur. »
La renarde, lasse d'abord, puis énervée, puis hystérique. « Mais enfin, que me voulez-vous? Non, mais c'est agaçant, à force. C'est la guerre que vous voulez? C'est ça? »
« D'accord, mes gros loulous, je sors mon malheur sibérien. »«
Là, c'est trop, » dit l'ours, « on se calme. »
Et au lièvre, « Bon, je m'en vais, le mieux c'est de négocier, à toi de jouer, mon lapin. Après tout, hein, c'est ta cabane. » Il fait ce qu'il a dit, il part.
Vient un coq.
Il désigne l'ours, il demande « Et où court-il si vite ?» Le lièvre lui raconte. « Dans ta maison, une renarde, un malheur sibérien, c'est quoi ?»«
Je l'ignore, mais c'est terrible. »
« On va bien voir, » répond le coq.
« Renarde, sors !»«
Non, non et non, et si tu insistes, prends garde. »«
Tu sors ton malheur sibérien ?»
« Exactement. »«
Très bien, j'attends. »«
Tu n'as pas peur ?»«
Non, pas du tout. J'ai un bec et des griffes dures.
Je t'étriperai proprement, je te crèverai les yeux. »«
Oh, tu ferais ça ?»«
Quoi,
tu en doutes ?»
Silence. Enfin, la porte s'ouvre. Apparaissent un œil, un museau.
« Bon, j'ai besoin de prendre l'air. »«
Bonjour, bonsoir, » dit la renarde. Elle sort, elle salue, elle s'éloigne.
Revoilà le lièvre chez lui.
Et il dit au coq, « Au fond, mon affaire était simple. Il suffisait d'oser, c'est tout. »
« Et il suffisait, » répond le coq.
Il rit, il dîne, il boive sec, il festoie jusqu'au point du jour et décide de vivre ensemble. Le conte est fini. Hommes, femmes, bonne vie sur terre pour tous.
Un conte de Tolstoï, Les trois questions de l'empereur. Ce matin-là, l'empereur se réveille de fort bonne humeur. Il a l'esprit paisible et content. Oh, bien sûr, il n'a pas trouvé vraiment la réponse au problème qui le hante depuis longtemps, mais maintenant, il sait le formuler sous forme de trois questions. Le lendemain, il convoque son conseil des ministres et il expose les trois questions à cette assemblée. D'abord, première question, quel est le meilleur moment pour faire ce que l'on a à faire? Deuxième question, quelles sont les personnes les plus importantes dont il convient de s'entourer, auxquelles il faut s'adresser? Troisième question, quelle est la chose la plus importante à faire à tout moment. Il promulgue un décret et on charge tout de suite des émissaires et des fonctionnaires d'aller à travers l'immense Russie ramener des candidats pour répondre à ces questions. On organise un concours avec des éliminatoires et on promet une récompense, bien sûr, au vainqueur. À la fin de cette période de sélection, quatre candidats sont sélectionnés. La première question, quel est le meilleur moment pour faire ce que l'on a à faire? Alors le premier candidat dit, pour être sûr de choisir le bon moment, il suffirait de suivre un emploi du temps serré, notant les heures, les jours, les mois, les semaines, et en face de chaque jour et de chaque heure, ce qu'il y a à faire. Comme ça, on serait sûr de faire ce qu'il y a à faire au bon moment. Le deuxième candidat lui dit « Mais ce n'est pas possible, il y a toujours des imprévus. » Non, le plus important, c'est de fuir les distractions et de se concentrer sur le moment présent pour essayer d'avoir l'esprit libre. Le troisième candidat dit « De toute façon, l'empereur seul n'y arrivera pas. Il doit s'entourer d'un conseil de sages et tous ensemble, ils trouveront sûrement le meilleur moment pour faire ce qu'on a à faire. » Enfin, un dernier candidat, lui, « Moi, je crois qu'il n'y a que dans les astres qu'on peut espérer. Il nous faut donc réunir des magiciens et des mages, car seuls eux pourront dévoiler le futur et savoir ce qu'il y a à faire. » À la deuxième question, « Quelles sont les personnes les plus importantes auxquelles s'adresser ou dont il faut s'entourer ?» Le premier candidat dit « Le plus important, c'est d'amener un ministre. Ils savent gérer les affaires. » Le deuxième candidat dit « Non, il faut amener un moine ou un curé. » Le troisième candidat dit « Non, le plus important, c'est un médecin. » À la quatrième question, « Quelle est la chose la plus importante à faire à tout moment ?» Alors, il y en a un qui répond « Mais le plus important, c'est la science, c'est la médecine. » Le deuxième dit « Mais non, c'est la religion, l'approche de Dieu, etc. » Le troisième dit « Mais non, la chose la plus importante, c'est l'art militaire, défendre son pays. » Et enfin, la quatrième, c'est « Non, la chose la plus importante, c'est l'art politique, bien sûr, comment gérer les affaires. » Alors l'empereur répond qu'aucune de ces réponses n'arrive à le satisfaire. Il renvoie tout le monde. La récompense n'est pas donnée ce jour-là. Les nuits suivantes, il passe des mauvaises nuits, il dort mal. Enfin, 3 jours plus tard, il réunit à nouveau son conseil des ministres. Et voilà ce qu'il leur dit. « J'ai décidé d'aller voir un ermite qui vit dans la montagne pour voir ce que lui pense de tout cela. Bien sûr, cet homme, je le sais, n'aime pas les puissants ni les riches. Je vais y aller donc déguisé en paysan, et c'est ce qu'il fait. Mais au bas de la montagne, il met une escouade de soldats et il monte tout seul, déguisé en paysan. Lorsqu'il arrive, l'ermite est en train de bêcher son carré de jardin. C'est un homme âgé et il halète. L'empereur d'abord lui pose les 3 questions. L'ermite sourit, tapote l'épaule de l'empereur et il se remet à son ouvrage, à bêcher le jardin. Au bout d'un moment, l'empereur, quand même voyant cet homme âgé peiné, lui propose de partager le travail. Alors il prend la bêche et il se met à bêcher les plates-bandes lui aussi. Au bout de 2 heures, l'ermite demande à l'empereur à nouveau. Il lui dit « écoute, je pourrais prendre le relais ». L'empereur lui dit « Non, je vais travailler jusqu'au soir ». Et lorsque le soleil se couche sur la montagne, l'empereur renouvelle les questions. Il lui dit « Mais j'aimerais bien que vous me donniez votre réponse. Si vous ne le pouvez pas, à ce moment-là, moi, je rentre chez moi. » L'ermite lui dit « Vous n'avez rien entendu là-bas, derrière ?»« Non, » dit l'empereur. « Regardez, il y a un homme qui arrive. En effet, il y a un homme avec une grande barbe blanche qui arrive. Il se tient le ventre avec ses mains. Il est blessé. Et juste au moment où il arrive devant l'empereur et l'ermite, il s'effondre avec une grave plaie au ventre. Alors l'empereur arrache sa chemise de paysan et il lui fait un pansement, il lui fait un point de compression pour arrêter l'hémorragie et le blessé perd connaissance. Ils vont chercher une vieille porte qui est devant l'ermitage. Ils s'en servent de civière pour porter le blessé et le rentre à l'intérieur. À l'intérieur, ils lui mettent plusieurs lourdes couvertures et tout le monde s'endort. Le lendemain matin, le soleil est déjà haut dans le ciel lorsqu'il se lève. L'ermite, lui, est déjà en train de semer et de planter sur la parcelle qu'il a retournée la veille en compagnie de l'empereur. Le blessé se lève, il va tout de suite voir l'empereur, il lui dit « Pardonnez-moi ». Je n'ai rien à pardonner, je ne vois pas ce que j'ai à vous pardonner. Eh bien voilà, j'étais venu sur cette montagne, sachant que vous alliez venir voir l'ermite, et je m'étais juré de vous tuer. Parce que lors de la dernière guerre que vous avez faite dans notre région, vous avez tué mon frère, et vous avez pris tous les biens de notre famille. Mais voilà, vos hommes m'ont intercepté, ils m'ont tiré dessus et j'ai récolté cette grave blessure. Vous m'avez sauvé la vie. Je vous en remercie grandement et je pense que je prends la résolution de vous servir jusqu'à la fin de mes jours. Alors l'empereur le rassure, il lui dit « Bien sûr, je vous pardonne. En plus de cela, je ferai venir mon meilleur médecin pour qu'il finisse de s'occuper de vous jusqu'à votre établissement complet. » Puis, l'empereur sort rejoindre l'ermite dans le jardin. À nouveau, il lui pose les trois questions. L'ermite lui dit « Mais vous avez déjà la réponse. » « Comment cela ?»« Eh bien, quand vous êtes arrivé à mon ermitage, vous avez vu un vieil homme en train de bêcher la terre. Alors, vous avez été saisi de compassion et vous avez partagé le travail avec moi. En faisant cela, vous avez échappé à l'attentat que cet homme avait monté contre vous. Vous avez donc choisi le meilleur moment pour faire ce qui était à faire. La personne la plus importante pour vous, c'était moi à ce moment-là, le pauvre paysan qui était le vieux paysan qui était en train de retourner sa terre. Et la chose la plus importante, c'était de m'aider. De même, lorsque le blessé est arrivé, toute affaire cessante, vous avez déchiré votre chemise et vous avez pansé sa blessure. C'était le meilleur moment pour le faire, parce que si vous ne l'aviez pas fait, il serait mort. Et vous auriez aussi perdu une occasion de vous réconcilier avec un ennemi. Et quant à la chose la plus importante à faire pour lui, c'était de le soigner. Voyez-vous, il n'y a dans la vie qu'un seul moment important. C'est maintenant. Le passé n'existe plus. L'avenir n'appartient qu'à Dieu. Le présent est le seul moment sur lequel nous avons une quelconque maîtrise. Les personnes les plus importantes, ce sont celles qui sont toujours à nos côtés, devant nous ou à côté de nous. Quant à la chose la plus importante à faire, c'est de rendre heureuses les gens qui nous entourent. C'est le sens profond de la vie.
Le singe et le chameau, conte tibétain. Un singe, juché à la cime d'un arbre, examinait les environs. Et voilà que son regard tombe sur un verger de pêcher situé de l'autre côté de la rivière. Il en avale sa salive tant la vue des beaux fruits sucrés lui fait venir l'eau à la bouche. « Si je pouvais y arriver, se dit-il, mais comment traverser la rivière ?» Il constate alors qu'à côté du verger de pêcher s'étale un joli champ de canne à sucre. « J'ai trouvé !» Et il dégringole de son arbre pour aller trouver son compère, le chameau. « Compère, où que j'aille, je pense toujours à vous. J'ai découvert un champ de canne à sucre qui ferait votre affaire. »« Où se trouve ce champ ?» demande l'autre alléché. Il faut traverser la rivière, et puis vous prenez à droite, vous allez tout droit, puis vous tournez à gauche, et vous voyez le champ sur votre droite. « Oh, jamais je ne me souviendrai de tout ça, » dit le chameau. « Ne voudrais-tu pas avoir l'amabilité de m'y conduire ?»« Mais avec plaisir, » approuve tout de suite le singe. « Seulement, je ne peux pas traverser la rivière, je ne sais pas nager. » « Qu'à cela ne tienne, je sais nager, moi, » dit le chameau. « Je te porterai sur mon dos, jusqu'à l'autre rive. » Le singe grimpe alors sur le dos du chameau, s'installe confortablement entre ses deux bosses, et le chameau traverse la rivière à la nage. Quand ils sont arrivés au champ de canne à sucre, Le singe dit à son compagnon « Compère, tandis que vous restez ici, je vais aller guetter par là, du côté du verger de pêcher, d'où on a une vue dans tous les sens. Je crains que le gardien ne vienne vous surprendre. »
« Tu es bien aimable, dit le chameau, et je ne sais pas comment je pourrais te rendre ta gentillesse. »
Le chameau se met à brouter de la canne à sucre, et le singe se hâte d'aller au verger. Il grimpe sur le premier pêcher rencontré, se jette sur les pêches en se les fourrant l'une après l'autre dans la bouche. Comme elles sont sucrées, comme elles sentent bon. Il en a le menton tout dégoulinant de jus poisseux. Et quand il en a mangé jusqu'à plus faim, il retourne au champ de canne à sucre. Là, le chameau continue à brouter. « Nous devrions rentrer maintenant, dit le singe, que l'attente agace.
« Oh, attends encore un moment, répond le chameau.
« Ah, j'aimerais mieux que l'on s'en aille, insiste le singe.
« J'arrive, j'arrive, prends un peu patience, dit le chameau, qui continue à brouter.
« Compère, si vous ne venez pas tout de suite, j'appelle le gardien, menace le singe, déjà irrité d'attendre.
« Oh, on n'en fait rien, je te prie, il me battrait.
« Et pourtant, je vais l'appeler, dit méchamment le singe, qui se met à crier à plein poumon.
« Oh là, le garde, viens vite, il est un chameau dans tes cannes à sucre. Si tu ne viens pas, il tondra le champ.
« Mais tu es fou ou quoi ? » demande le chameau. Le singe court vers la rivière, tout en continuant à appeler le garde. Ce dernier, qui dormait comme une souche, est réveillé par ses cris. Il sort de sa cabane, se munit d'un bon gourdin et court vers le chameau. Et les coups se mettent à tomber dru sur l'échine du malheureux, qui prend ses pattes à son cou et court de toutes ses forces vers la rivière. Le singe l'attend caché derrière un buisson. Et lorsqu'il voit arriver, tout cabossé et tout meurtri, lorsqu'il voit arriver le chameau, il fait semblant de le plaindre.
« Pauvre compère, pourquoi ne m'avez-vous pas écouté et n'avez-vous pas laissé ces cannes à sucre ? Vous auriez évité cette bastonnade. »
« C'est de ta faute. Pourquoi as-tu appelé le gardien ? » lui reproche le chameau.
« Moi, j'ai appelé le gardien, s'étonne alors le singe, véritable comédien.
« Et qui d'autre l'a appelé, si ce n'est toi ? » s'indigne cette fois vraiment le chameau.
« Tu as cru cela, compère, mais je t'assure que je n'ai pas crié, » insiste le singe.
« Tu n'as pas crié, et moi, je n'ai pas reçu de volée de coups de bâton. J'ai seulement rêvé, » déclare le chameau d'un ton qui met fin à la discussion. Le singe se gratte un moment la tête, puis il finit par se hasarder à dire « Ma foi, compère, c'est possible, après tout, que j'ai crié. Je suis parfois si nerveux que je crie sans trop savoir pourquoi ni comment. C'est une maladie, je n'y peux rien.
« Ça va comme ça, dit le chameau, n'en parlons plus. Monte sur mon dos et rentrons. » Le singe, sans hésiter, grimpe vite sur le dos du chameau et s'installe confortablement entre les deux bosses. Le chameau entre dans le courant de la rivière. Ils sont au milieu de la rivière lorsque le chameau crie soudain
« Je vais nager sous l'eau ! Je vais nager sous l'eau !
Qu'est-ce qui vous prend, compère ? Et moi, qu'est-ce que je vais devenir ? »
« Eh, c'est que je suis parfois si nerveux que je dois nager sous l'eau sans trop savoir ni pourquoi ni comment. C'est comme une maladie, je n'y peux rien, dit le chameau qui plonge sous la surface.
« Je vais me noyer, je vais me noyer, je me noie !» hurle le singe en se retrouvant à l'eau.
Mais, par chance, la rivière à cet endroit-là est peu profonde. Le singe prend un bon bain, mais parvient à s'en tirer. Il a reçu une leçon bien méritée pour sa malice et son ingratitude. Mais on ne sait pas s'il a retenu la leçon bien longtemps, car chasser le naturel et il revient au galop.
Chance ou malchance? C'est un fermier de la région de Névache. Il vivait là-haut, avec de grandes prairies, des champs et quelques jardins. Mais il élevait aussi quelques chevaux. Un jour, alors qu'un de ses voisins est accoudé à la barrière de son champ, il a une de ses juments qui saute par-dessus la barrière et qui part en haute montagne. « Ah, quelle malchance vous avez là !» fait le voisin. « Chance ou malchance ?»« Allez savoir !» dit le paysan. Deux jours plus tard, la jument revient avec quelques chevaux sauvages. « Ah !» dit le voisin. « Quelle chance vous avez aujourd'hui !»« Chance ou malchance ?» dit le paysan. « Allez savoir !» Quelques jours plus tard, le fils du fermier s'affaire à dresser un des chevaux sauvages et, en reculant, il glisse sur le sol et se casse la jambe. Le voisin, comme à son habitude, est là accoudé à la barrière, il n'avait pas grand-chose à faire, celui-là. Il s'exclame « Ah, vraiment, aujourd'hui, quelle malchance vous avez, vous rendez compte, votre fils, il vient de se casser la jambe en dressant ce cheval. » Chance ou malchance, dit le paysan, on ne sait jamais. En effet, une semaine plus tard, un roulement de tambour monte depuis la vallée. C'est un capitaine qui arrive avec quelques soldats. Ils sont là, ils tournent dans les fermes pour réquisitionner des hommes pour la guerre. Mais le fils du paysan étant bloqué au fond de son lit, ils ne les intéressent pas et ils repartent comme ils sont venus. Alors le paysan regarde le voisin et il lui fait comme ça. « Chance ou malchance ?» Et les deux en cœur reprennent « Allez savoir !»